Je vous invite à trouver Ésaïe chapitre 53. Et nous allons lire deux versets, Ésaïe 53, les versets 6 et 7. Ceci est une prophétie de ce que dira un jour le peuple juif quand ils reconnaîtront que Jésus de Nazareth est en réalité leur Messie. C'est un jour que nous attendons encore, mais dans ce jour, ils diront, Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Ici, nous avons des centaines d'années avant l'événement de la croix, les Écritures qui prédisent non seulement la nature propitiatoire de l'expiation, c'est-à-dire que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous, verset 6, mais même la manière dans laquelle le Messie porterait les péchés de son peuple. Il le fera, dit le prophète, silencieusement. Et c'est le sujet que nous allons considérer ensemble. J'espère que nos cœurs pourront ensemble répondre en adoration à l'Éternel, notre Seigneur, à Dieu le Père, pendant que nous considérons la souffrance silencieuse du Sauveur. Je relis donc ce verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, c'est-à-dire silencieux, ou à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Une chose qui ressort quand on lit les récits dans les évangiles de la mort de Jésus-Christ, et que Jésus, face à une grande provocation, est abusé de toutes parts et par tous les hommes, il demeure absolument calme et digne. Et Jésus-Christ, la nuit avant où il a été crucifié, il a subi, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce fait, mais il a subi 6 procès différents. Pendant la nuit et puis le jour de sa crucifixion, pendant les environ 18 heures après son arrestation et avant sa crucifixion. Et au cours de ces 6 procès, il a dû faire face à 3 différents types de juges. Il avait en premier lieu le souverain sacrificateur et les autres dirigeants juifs, donc c'est des procès religieux. Et puis, il doit faire face à 2 reprises à Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, et une fois devant Hérode, tétrarque de Galilée. Et pour nous aider à mieux rester concentrés sur le sujet ce soir, et pour vous épargner de devoir trouver à chaque fois plein de références différentes, j'ai mis tous les passages bibliques sur l'écran. Et donc, je vous invite exceptionnellement, à même pas chercher les références dans vos Bibles, mais de suivre sur l'écran. Et nous allons voir d'abord Jésus devant le souverain sacrificateur. C'est raconté en Marc chapitre 14, à partir du verset 53. Et il dit « Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Alors voici Jésus donc devant Pilate, très tôt le lendemain. Marc 15, 1 à 5. « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Et après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ?» Vous voyez la surprise. « Vois de combien de choses ils t'accusent ?» Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Voici Jésus devant Hérode. Luc 23, « Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Mais au milieu de tout cela, Jésus ne répondait rien. Alors je crois que nous sommes tous d'accord qu'un des instincts les plus naturels dans le cœur du humain est l'instinct de se défendre. C'est beaucoup plus facile de dire quelque chose, parfois n'importe quoi, que de ne rien dire. Mais là, nous voyons Christ devant les Juifs accusateurs, devant les Romains moqueurs. Il n'offre aucune riposte. Et je veux considérer ce soir 2 points principaux. Et nous allons en fait chanter un chant au milieu, donc ne soyez pas surpris quand on vous demande de vous lever, de chanter. Et je voudrais d'abord que nous considérions ensemble quelques vérités concernant le Christ qui accentue la beauté de ce silence divin. Et puis nous allons considérer plusieurs vérités de Jésus que son silence souligne ou accentue. Donc d'abord certaines vérités concernant le Christ qui accentue la beauté de son silence. Le silence, nous avons vu, est annoncé en Ésaïe chapitre 53, verset 7, comme une vertu merveilleuse. Il ne va pas ouvrir la bouche. Mais on doit admettre que le silence est admirable et louable seulement en raison des circonstances dans lesquelles Jésus est resté silencieux. Si vous êtes au magasin et la caissière vous donne trop de monnaie, et vous restez silencieux, et vous ne dites rien, ce n'est pas quelque chose de louable. Mais voici ce qui est si incroyable. La Bible dit qu'il a été maltraité et opprimé, mené à l'abattoir. Et il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est la révélation merveilleuse de notre Sauveur. Au beau milieu de cette injustice incroyable, il n'ouvre pas la bouche. C'est donc lorsque nous prenions compte de sa souffrance et son affliction sans précédent que nous allons admirer encore plus le silence qu'il a démontré. Et la première considération qui accentue la vertu de sa souffrance silencieuse, c'est que cette souffrance silencieuse est accentuée par sa connaissance de la croix, par le fait qu'il était complètement conscient de ce qui lui arrivait. Un agneau qu'on mène à la boucherie est muet parce que la bête est quoi? La bête est bête. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et un mouton peut être amené pour être abattu sans résistance de sa part parce qu'il n'a aucune idée ce qui l'attend. Mais le silence de notre Sauveur, en revanche, est complètement différent parce qu'il n'est pas ignorant. Il a vécu toute sa vie, au vu et au su de la croix. Et c'est sa connaissance parfaite de ce qui lui arrivait, ce qui allait lui arriver, qui accentue le silence dans lequel il a porté sa souffrance. Il était né pour mourir et il n'a jamais essayé de diverger de sa mission. Il n'a jamais utilisé sa langue pour tenter d'éviter la croix. Jésus avait dit, alors qu'il était encore en Galilée, avant même leur entrée en Judée, c'est en Matthieu 17, il avait dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » En Matthieu chapitre 20, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. » Vous voyez, il est complètement conscient de ce qui va se passer. « Et ils le livreront aux païens, c'est-à-dire à Pilate et à Hérode, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » Et le troisième jour, il ressuscitera. Christ savait même le moment où il allait mourir. Il dit à ses disciples en Matthieu 26, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et c'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il sait comment il va mourir, il sait exactement quand il va mourir, il sait qui va le livrer, qui va le condamner. Il connaît tous les détails de sa mort. Et Jésus, sans presque aucun doute, avait vu lui-même des crucifixions. Il avait vu la souffrance. Et il savait, quand il a été arrêté sur le mont des Oliviers, qu'avant le lendemain soir, il serait lui-même cloué à un arbre. Et pourtant, la Bible dit, il n'a point ouvert la bouche. Donc, le silence de notre Sauveur est accentué par sa connaissance de la croix. Mais le silence de notre Sauveur est accentué par l'injustice de la croix. Le drame entier de la tragédie, écrit un auteur, depuis l'arrestation dans le jardin de Gethsémané au dernier coup d'épée dans le côté à Golgotha, était tellement illégal que s'il n'avait parlé qu'une phrase exigeant ses droits sous la loi juive ou romaine, la crucifixion n'aurait jamais eu lieu. Mais il n'a pas parlé. Il a choisi sa souffrance. Un autre auteur ajoute, « Jamais étaient des poursuites judiciaires plus irrégulières ou un verdict plus injuste que dans le procès de Jésus. De l'arrestation à la crucifixion, tous les principes de la justice ont été violés et les dispositions de la loi pénale et religieuse bafouées. » Et il mentionne plusieurs des dispositions légales qui ont été ignorées. Par exemple, selon la loi juive, chacun des 3 procès religieux était illégal car ils se sont produits avant le sacrifice matinal. Ils devaient se produire plus tard dans la journée. Là, ils ont fait pendant la nuit. L'exigence d'avoir au moins 2 ou 3 témoins était ignorée, comme par hasard. Caïphe a enfreint les dispositions de la Mishnah en cherchant à forcer Christ à s'incriminer lui-même, ce qui était interdit pour le juge. La Mishnah a prescrit que dans une affaire de peine capitale, le verdict ne pourrait pas être donné le même jour, il fallait attendre un jour. L'accusation contre Jésus de blasphème provenait effectivement de ses juges. C'est les juges qui ont apporté les accusations. Bien que le Sanhédrin n'avait pas le droit d'initier des accusations, seulement de les investiguer. Les juges savaient que les témoins parjuraient. Matthieu 26 dit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages. » Ils étaient eux-mêmes, les juges, en train de chercher des menteurs pour mentir devant eux, les juges. Vous voyez l'injustice pas seulement dans le verdict et la peine, mais dans tout le déroulement du procès. Et quand on passe aux Romains, on voit que le procès était tout aussi grotesque. Le roi Hérode et ses soldats n'ont fait qu'un simulacre de justice en refusant de protéger les droits d'un de leurs sujets, un des sujets du roi. Ils ont servi de Jésus que pour bien rire. Pilate connaissait, il admettait même l'innocence complète de Jésus-Christ, mais il va quand même le condamner à mort par crucifixion. C'est une chose intéressante. Écoutez le récit, il dit en Jean 18, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Voici le juge dit « Il n'y a aucun crime en lui. » Plus tard, chapitre 19, verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, de nouveau, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Plus tard, il revient et dit une troisième fois, quand il crie « Crucifie, crucifie », Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Même sa femme intervient et elle envoie un message à Pilate, pour le dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. À la fin de tous ces procès, Pilate, en Matthieu 27, il dit, il voit qu'il ne gagne rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est une moquerie de la justice pour Pilate de se laver les mains en feignant le sens, quand c'est lui-même qui va le condamner à la crucifixion. Il vient de dire au moins 4 fois, verdict, innocent, 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 juste, la peine, crucifixion. Il y a un sens dans lequel il est approprié que nos cœurs réagissent avec indignation face à cette injustice. Personne ici a connu une injustice telle que celle-ci. L'injustice de notre Seigneur qu'il a reçue de la part de ses hommes. Mais quelle était la réponse de Christ face à cette injustice? Il n'a point ouvert la bouche. Le silence de notre Sauveur est accentué lorsque nous considérons l'injustice flagrante qu'il a connue à la croix. Imaginez de vivre vous-même la plus grande injustice du monde sans dire un mot. Mais le silence de notre Sauveur est accentué aussi par la douleur qu'il a vécue sur la croix. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne peuvent même pas se coigner l'orteil sans qu'un torrent de jurons et de gros mots jaillisse de leur bouche. Dès qu'une chose se passe, ça sort. Et ça sort par la bouche en premier. Mais Jésus mourait sur la croix. La crucifixion était le plus horrible moyen d'exécution imaginable. Le Romain Cicéron le décrit comme, et je cite, « une peine la plus cruelle et écœurante ». La crucifixion impliquait presque toujours la torture, le saignement, la nudité, l'agonie jusqu'au bout. Elle était conçue pour tuer, mais pour ne tuer qu'après que la victime eut enduré le maximum de souffrance possible. Et de plus, elle était réservée pour les pires des criminels et seulement s'ils n'étaient pas romains. Cicéron encore, il dit de lier un citoyen romain, c'est un crime, le fouetter, c'est une abomination, le tuer, presque un acte de meurtre, le crucifier, c'est... Il n'y a aucun mot qui peut décrire un acte si horrible. Et on peut se poser la question, Jésus était-il crucifié parce qu'il n'était pas romain ? Où Jésus n'avait-il pas la citoyenneté romaine pour qu'il puisse être crucifié? Mais les souffrances brutales endurées par Christ sur la croix ne sont pas présentés dans la Bible pour nous évoquer en nous la sympathie au pauvre Jésus, regarde ce qu'il a enduré. Mais plutôt pour susciter en nous la foi en lui. Mais c'est quand même une réalité que lorsque nous pensons au fait qu'au beau milieu de ses souffrances, il n'a pas ouvert la bouche. Donc le silence de notre Sauveur, nous pouvons le louer pour cela, est accentué lorsque nous considérons la connaissance qu'il attendait, l'injustice sans précédent avec laquelle il a été traité, et la douleur et l'agonie sans pareil qu'il a souffert. Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Je vous invite à vous lever, et Albert va venir pour nous aider à chanter ce chant.
Time.
Voilà quelques vérités concernant donc l'expérience que Christ a vécue, qui accentue la beauté de ce silence divin. Mais le silence de notre Sauveur accentue certaines vérités concernant lui-même. C'est-à-dire, le fait qu'il soit silencieux nous parle aussi de lui. Et le silence de notre Sauveur accentue son authenticité. Car même face à la mort, il n'a jamais renié ses déclarations. Il est étonnant comment la menace de la mort, ou même quand un terroriste est arrêté, que même son discours change. Et ça fait parfois la menace, surtout de la mort, ressortir la vérité des menteurs. Ma femme et moi, il y a quelque temps, nous avons lu un livre ensemble qui parlait d'un certain juif qui s'appelait Sabbatai Tzevi. Sabbatai Tzevi est né à Smyrne, actuellement Izmir, en Turquie, en 1626. Et cet homme figure parmi les superstars, les grandes vedettes de la religion juive. Il était en fait un enseignant juif qui prétendait être le Messie. Et des centaines de milliers de juifs à l'époque ont cru en lui. En fait, les historiens nous disent qu'il était, ou qu'il est, demeure la deuxième figure messianique la plus populaire dans l'histoire du judaïsme, après Jésus, bien sûr, de Nazareth. Et de nombreuses communautés en Europe occidentale, en Europe orientale aussi, au Moyen-Orient, l'ont reconnu avec enthousiasme comme le Messie, comme celui qui était destiné à ramener en Terre Sainte tous les Juifs qui étaient donc dispersés dans le monde. Et il y avait des communautés entières qui ont tout vendu, ce qu'ils avaient, pour se préparer à ce départ. Alors vous pouvez imaginer, au milieu de tout cela, leur surprise et leur consternation quand cet homme est capturé par les Turcs en 1666. Et imaginez leur choc lorsqu'en septembre de 1666, après seulement 2 mois d'emprisonnement, à Istanbul, Sabbatai Tzevi, craignant sûrement pour sa vie, se convertisse à l'islam. Sous une menace de mort, cet homme et ses plus proches disciples ont renoncé au Dieu d'Israël et ils sont devenus musulmans. Vraisemblablement, il mentait depuis quelque temps et la menace de la mort a fait ressortir la vérité. Alors, comparez cela à Jean 18, 33-37, qui parle de Pilate qui rentra dans le prétoire et appela Jésus. Il lui dit « Es-tu roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi suis-je juif, ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors notez là que Jésus prend le temps d'expliquer qu'il n'est pas venu pour mettre en place un royaume qui allait, un royaume politique, terrestre, qui pourrait rivaliser celui de Rome. Il dit, mon royaume n'est pas comme le tien, Pilate. Alors verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Alors je m'arrête une seconde pour nous rappeler que ça, c'est l'accusation qui ornera sa croix comme justification de sa crucifixion. Il s'est fait roi. C'est en tant que roi qu'on va le condamner, qu'on va le crucifier. Alors ici, il est seul. Il est avec Pilate, tout seul. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rétracter sur ce point, sur ce détail, si vous voulez, pour sauver sa peau. Mais Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Jésus n'a jamais retracté une seule de ses déclarations. Et nous disons honorable quand un homme meurt pour ses convictions, mais Jésus est mort à cause de ses déclarations. Jésus est mort à cause de ce qu'il disait de lui-même. Et face à une mort tortueuse, n'ayant qu'une trentaine d'années, il ne pouvait pas nier lui-même. Et ce silence, bien sûr, il n'est pas total. Il parle, mais quand il parle, c'est des déclarations spécifiques et calmes qu'il fait de lui-même. Par exemple, au souverain sacrificateur, en Matthieu chapitre 26, il dit que Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : « Je t'ajure par Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc il le force à répondre et Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » À Pilate, il a dit en Marc 15, quand Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit simplement, « Tu le dis. » Alors, je ne sais pas si vous vous êtes personnellement forcé à vous confronter à qui est vraiment Jésus-Christ. Qui est vraiment Jésus-Christ ? Et une chose est sûre, ce n'était pas une farce. Jésus ne faisait pas semblant. La nuit, juste avant qu'il ait été crucifié, en Matthieu 20, 28, il dit : « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et ce n'est pas que des paroles, parce qu'il a fait exactement cela le lendemain. Et le fait que face à la mort, il n'a pas ouvert sa bouche pour abjurer ou renoncer à ses affirmations accentue l'authenticité de Jésus-Christ. Il était vrai, il est fiable. Nous pouvons croire dans ses déclarations parce que lui-même est mort pour avoir dit ce qu'il a dit. Jésus n'était pas un sévice à bataille. Il était vrai. Et donc, on n'a pas le droit d'écarter indifféremment les affirmations de Jésus. Oui, c'est facile, il a dit ça, mais dans le contexte... Non, ce n'était pas facile pour lui de dire ça. Il savait que de dire cela allait lui coûter la vie. Mais il a insisté sur le fait qu'il était fils de Dieu. Le silence donc de notre Sauveur accentue son authenticité parce qu'il n'a jamais renié une seule affirmation. Mais nous pouvons dire aussi que le silence de notre Sauveur accentue son impeccabilité, car il n'a maudit ni homme ni Dieu. On parle de quelque chose qui est impeccable, mais l'impeccabilité veut dire le caractère d'une personne qui ne peut pécher et donc qui est sans défaut. Alors vous allez me dire, le membre du corps le plus difficile à contrôler, c'est quoi ? C'est la langue. Je n'ai pas besoin de vous le dire. J'imagine, vous le savez par expérience. Si vous avez fait du mal aux autres, c'est probablement avec la langue. Si vous avez été blessé par un autre, c'est probablement à cause de sa langue. L'écrivaine française Annie Ernaux, dans son livre qui s'appelle « La place », elle parle de sa relation avec son père et elle dit ceci. Elle parle de son père et sa mère. « Lui et ma mère s'adressaient continuellement la parole sur un temps de reproche, jusque dans le souci qu'ils avaient l'un pour l'autre. « Mets ton cache-nez pour aller dehors » ou « Reste donc assise un peu » On aurait dit des injures. Ils chicanaient sans cesse pour savoir qui avait perdu la facture du limonadier ou qui avait oublié d'éteindre la lumière dans la cave. On ne savait pas se parler entre nous autrement que d'une manière râleuse. Le temps poli était réservé aux étrangers. J'imagine, je me demande combien de familles existent comme celle-ci, où le temps poli est réservé pour l'Église. Ailleurs, elle dit, « Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicane douloureuse, bien plus que l'argent. » Et que dit la Bible ? En Jacques 3, Il dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et qui ici peut dire, moi, j'ai dompté ma langue? Qui ici n'a pas la langue qui vous trahit et vous dit des choses que vous regrettez presque sur le coup? Et c'est pour ça que Jacques dit dans le même chapitre, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et Jésus a dompté la langue. Jésus a dompté sa langue. Et donc, il s'est démontré impeccable, sans péché. Jésus n'a jamais retiré une chose qu'il avait dite. Il ne s'est jamais excusé pour avoir dit quelque chose d'inapproprié. Il n'a dû jamais dire pardon d'avoir dit quelque chose de méchant. Il n'a jamais exagéré, il n'a jamais déformé quoi que ce soit. Il avait un contrôle total de sa langue. Imaginez quelqu'un qui, durant toute sa vie, a un contrôle total de sa langue. Et ce contrôle de la langue n'est pas plus évident que lors de ses procès, de sa crucifixion, c'est-à-dire jusqu'au bout. On le pousse jusqu'à la crucifixion. Et il ne pêche toujours pas avec la langue. Un historien nous dit que c'est typique des personnes crucifiées de proférer des cris forts depuis leur croix. Un spécialiste écrit que ce qui rendait les crucifixions particulièrement horribles étaient les cris de rage et de douleur, des jurons sauvages et des éruptions de désespoir épouvantables des victimes. Et il y a sept dictons, sept phrases que Jésus dit de la croix. Et aucun d'entre eux est un jurant sauvage ou une éruption de désespoir épouvantable. Le premier était « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le tout dernier « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous savez, nous pouvons tous nous habiller bien, aller à l'église, au travail, dire de belles choses et nous contrôler quand même un peu devant certaines personnes. Mais comment agissons-nous lorsque nous sommes provoqués à la colère chez nous? Que dirons-nous si on nous maltraitait jusqu'à nous dénuder et nous clouer sur une croix? Mais Christ, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point aucune menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est l'activité positive qui remplaçait l'empêchement de ces menaces. Au lieu de menacer les gens, il se remettait à Dieu. Et le fait que face à la mort, il n'a point ouvert la bouche pour maudire soit l'homme, soit Dieu, accentue son impeccabilité. Mais nous voyons aussi que le silence de notre Sauveur accentue son humilité. Car il ne s'est pas justifié. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même, n'est-ce pas? C'est dans Philippiens que nous le lisons, Philippiens 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ceci nous montre que Jésus n'est pas allé à la croix contre son gré, contre son désir, tout en exigeant ses droits. Ah, même aujourd'hui dans les prisons, les gens exigent leurs droits. Je suis un prisonnier, j'ai des droits. Je suis un criminel, j'ai des droits. Jésus n'avait pas cette attitude. Il avait tous les droits dans le monde et dans l'univers, mais il s'est dépouillé de tous ses droits. Et ses souffrances silencieuses sont un témoignage de son humilité. Le fait que face à la mort, il n'a pas ouvert la bouche pour se justifier face à ses faux témoignages accentue son humilité. Qui peut rester silencieux lorsque vous êtes injustement jugé? Nous voyons quatrièmement que le silence de notre Sauveur accentue sa volonté de mourir, car il n'a pas réclamé de l'aide. Jésus, il ne faut jamais oublier, Jésus n'était pas obligé de mourir. Il a dit, personne ne peut prendre ma vie. Personne. Pilate, les chefs. Et à l'arrestation de Jésus, Pierre, un de ses disciples, vous savez, il a donné un coup d'épée à l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Il a, en sectionnant l'oreille de cet homme. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit des déclarations très frappantes. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Écoutez ce que dit Jésus. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus n'a qu'à dire le mot et paf, il y a 72 000 anges qui sont là. Il dit, le Père le ferait. Je sais que le Père le ferait. Je sais qu'il me répondrait. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et Jésus, donc, il regarde à Pierre et il lui dit, pourquoi tu essaies d'utiliser ton épée? C'est presque rigolo dans le contexte. Tu te rends pas compte? C'est pas évident pour toi que tout ce que je dois faire, c'est de dire le mot, de demander de l'aide à mon Père, et il m'enverrait à l'instant même plus de 72 000 anges pour me délivrer? Écoute Pierre, la question n'est pas mon incapacité. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de plus de garde-corps. C'est intéressant que tous les chefs, même les chefs les plus importants de ce monde, ils sont toujours entourés de garde-corps. Parce qu'ils ne peuvent pas même eux-mêmes se protéger. Jésus n'a pas besoin de garde-corps. Il dit, mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus contrôlait complètement la situation. Alors essayez d'imaginer que vous êtes en train d'être amené comme un agneau à votre mort et vous avez le pouvoir d'utiliser votre voix et d'appeler à votre aide plus de 72 000 soldats célestes. Et malgré ce pouvoir qu'il a au bout des lèvres, il n'ouvre pas la bouche. Il a été maltraité et opprimé et n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a pas ouvert sa bouche en rétraction. Jésus n'a pas ouvert sa bouche en blasphème. Jésus n'a pas ouvert sa bouche en auto-justification. Jésus n'a pas ouvert sa bouche en réclamant la délivrance. Et savez-vous que quand il est mort, Christ est mort pour des impies? C'est ce qui accentue encore plus. Il est mort pour des pécheurs. Il a gardé le silence pour moi. Romains 5 nous dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire rebelles, Christ est mort pour nous. C'est ça qui doit être souligné. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous serons glorifiés en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de ne pas ouvrir la bouche et d'aller jusqu'au bout. Et donc voici en Ésaïe, des centaines d'années avant l'événement, les Écritures non seulement prédisent qu'il va mourir pour nous, mais même qu'il porterait les péchés de son peuple en n'ouvrant point la bouche. Que Dieu nous aide à adorer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen.